Alors, capitalisme. Voilà ce qui est écrit dans le glossaire. Dictionnaire Larousse. Refusant de s'engager sur une définition précise d'un terme aussi colporté, le Larousse choisit d'en donner quatre versions différentes, sans toutefois préciser si un système donné se doit de les cumuler toutes pour pouvoir être dénommé capitalisme, ou s'il suffit qu'il en remplisse une seule ou plusieurs. L'utilisateur a donc le loisir de faire son marché en toute liberté et pourquoi pas de faire une salade composée pour établir sa propre définition du capitalisme. Première définition. Le capitalisme, c'est un statut juridique d'une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui n'en sont pas propriétaires. Commentaire. Cette définition bien connue est également bien connue pour son imprécision. En effet, il conviendrait d'expliquer le sens exact de caractériser, puisqu'on dit c'est une société humaine caractérisée par la propriété privée des moyens de production. Si caractériser est pris dans un sens absolu, ça signifie qu'une société humaine dans laquelle existent des moyens de production privés mis en œuvre par leurs propriétaires, comme par exemple dans la société actuelle, n'est pas une société capitaliste. Si caractériser est pris dans un sens partiel, cela signifierait que pour jouir du statut de capitaliste, une société humaine doit avoir une certaine proportion de moyens de production privés mis en œuvre par des non-propriétaires, parallèlement à une autre proportion mis en œuvre par des propriétaires. Dans ce cas, il conviendrait de quantifier cette proportion afin de pouvoir définir clairement une société capitaliste et une autre société qui ne serait pas capitaliste. Donc, compte tenu de cette incertitude, une formulation plus juste pourrait être celle-ci. Donc là, on propose au Larousse de modifier sa formulation. Au lieu de dire « statut juridique d'une société humaine caractérisée par blablabla », il faudrait dire « secteur économique d'une société donnée dans lequel la production est mise en œuvre par des individus travaillant sur des outils appartenant à d'autres individus ». On remarquera que cette définition ôte le statut de société au capitalisme pour le réduire à l'état de simple secteur d'une société. Celui-ci pouvant être plus ou moins important, caractérisant ainsi une société à tendance plus ou moins capitaliste. Alors ça, c'est un débat assez intéressant. C'est un débat assez intéressant parce que une des extensions, justement, du mot capitaliste, c'est que capitaliste, dans cette acception-là, il désigne une certaine mode de faire valoir, et quand on dit une société capitaliste, ça veut dire que tout est comme ça. Bon, définition 2. Système de production, cette fois on n'est pas dans un... C'est pas un statut juridique d'une société humaine, c'est un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. Alors, commentaire. Cette définition se situe dans le champ de la rectification suggérée par la précédente, effectivement, puisqu'on n'est plus dans le cadre de capitalisme égal statut juridique, mais dans le cadre de capitalisme égal simplement un système de production, c'est-à-dire qui peut éventuellement cohabiter avec d'autres systèmes de production. Cette définition se situe donc dans le champ de la rectification suggérée par la précédente. Elle reste toutefois ambiguë, dans la mesure où un système de production dépourvu de tout cadre juridique dans lequel il n'existerait que des individus agissant et produisant en liberté, mais sans avoir la possibilité d'accumuler du capital, ne pourrait pas, dès lors, être considéré comme capitaliste. Bon, ça c'est une ouverture sur notre société basée sur l'individu agissant. On aurait bien une entreprise privée et une liberté du marché, mais on ne serait pas pour autant dans un système capitaliste. Donc, grand débat. Définition 3. Système économique. Donc, c'est un peu pareil que système de production, dont les traits essentiels sont l'importance des capitaux techniques et la domination du capital financier. Commentaire. Cette définition n'en est pas une, dans la mesure où les expressions « importance des capitaux techniques » et l'autre expression, domination du capital financier, ne signifie pas grand-chose. L'importance du capital technique n'est en effet pas consubstantielle du capitalisme, mais plutôt de l'évolution technologique des modes de production, sauf si on considère que le mot capitalisme désigne tout simplement une société très développée technologiquement, ce qui serait largement abusif, mais ce qui se passe en fait assez souvent dans l'esprit des gens. Société développée technologiquement, c'est une société capitaliste. Quant aux critères nécessairement dominateurs du capital financier, celui-ci mériterait d'être précisé, au risque de considérer que tout système économique dans lequel les échanges sont fondés sur la monnaie est capitaliste, ce qui serait naturellement inexact. Quatrième définition. Dans la terminologie marxiste, donc là, Larousse dit il y a une définition où il faut se référer à Marx. Dans la terminologie marxiste, c'est un régime politique, économique et social, donc c'est un régime là, c'est un État, dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs des moyens de production en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, source nouvelle de plus-value. Commentaire. Nous ne saurions trop conseiller... C'est lamentable comme définition. Nous ne saurions trop conseiller au rédacteur du Larousse de relire attentivement Marx. Une autre option plus simple consisterait pour eux à carrément ne pas le citer, ce qui leur éviterait de navrants égarements. En effet, cette quatrième définition en forme de galimatia ne peut être retenue, ne serait-ce qu'au motif qu'elle ne cite même pas la valeur travail comme source unique de la plus-value, ce qui est quand même la base du marxisme. Ne pouvant donc sérieusement nous appuyer sur une définition officielle émanant d'un dictionnaire patenté, nous sommes allés fureter du côté des acceptions populaires, diverses reprises ici et là, pour tenter d'investiguer un peu plus la signification du capitalisme. De ce point de vue, il est à noter qu'aucun mouvement politique ou idéologique ne se risque à fonder son discours vis-à-vis du capitalisme par rapport à une définition concrète. C'est-à-dire que tous les partis qui parlent du capitalisme, il n'y en a pas un qui donne une définition. Tous préférant le désigner soit par une symbolique, soit attractive, alors ça c'est plutôt rare, soit repoussante, ça c'est plus courant. Donc la définition elle est remplacée par une symbolique. Mais, dans tous les cas, symbolique utile à leur propagande, ainsi, par exemple, et pêle-mêle. Alors, le capitalisme est un état d'esprit qui habite celui qui n'a pour seul objectif dans la vie que l'accumulation financière. Ça, c'est l'option droite chrétienne. Ensuite, le capitalisme, ça, c'est les exceptions populaires hein, qui sont symbolisées par certains mouvements. Le capitalisme est un système qui permet en toute légalité à un individu privilégié de faire travailler d'autres individus non privilégiés en contrepartie d'une rémunération la plus faible possible. C'est pas mal ça. C'est option gauche prolétarienne. Ensuite, le capitalisme est un système économique qui permet à une minorité d'individus de fabriquer des produits inutiles, à forte valeur ajoutée, doublé d'un système politique qui conditionne le cerveau de l'immense majorité restante pour qu'ils les achètent. Ça, c'est l'option freudienne. Intéressante également. Ensuite, nous avons le capitalisme est un mode d'exercice du pouvoir qui conduit la collectivité vers une croissance illimitée de la production de biens. Option objecteur de croissance. Alors, l'acception, la division qui est proposée pour le mouvement, c'est celle-ci. Le capitalisme est une construction juridique complexe qui rend possible un certain mode de faire valoir économique. Cette construction juridique prend la forme d'un corpus législatif dense et contrôlé, un corpus législatif en forme, en termes de création, création de loi, modification, modification de loi et abrogation, abrogation de loi. Donc, un corpus législatif contrôlé par un groupe restreint, installé en tant qu'État, et exerçant le pouvoir politique de façon oligocratique. Les quatre éléments fondamentaux de ce corpus sont la personnalité morale, la création monétaire, le crédit porteur d'intérêt et le mode de transmission de la propriété post-mortem, dont les caractéristiques avancées peuvent évoluer, mais dont la pérennité conditionne l'existence même du capitalisme.
Ouais, mais c'est vrai que c'est pas simple à définir. Tout le monde a son avis, mais...
Alors, je ne sais pas si c'est simple à définir ou pas. Ce que je pense, c'est que il faut le définir quand on en parle, parce que parler d'un concept sans qu'il soit défini, bon, c'est faire preuve d'une non-rigueur dans le discours. Et... Donc c'est le premier point, puis le deuxième point, c'est que je ne sais pas si c'est difficile à définir.
C'est compliqué.
Alors chacun a son idée, mais encore faut-il que la définition soit précise, parce que chacun peut. Bon, le capitalisme, c'est pas une marque déposée. C'est pas un mot qui est déposé à l'INPI avec un copyright. Bon, comme une mélodie qui est déposée à la SACEM, et on n'a pas le droit de changer plus d'une note, sinon bon, on a un procès. Donc c'est pas du tout le cas. Moi je suis pas choqué du fait qu'on puisse avoir des définitions différentes du capitalisme. Je suis choqué du fait qu'on puisse avoir des définitions qui sont pas précises, qui ne veulent rien dire. Donc ce mot étant effectivement porteur de tellement de choses, je pense qu'il est voué à avoir des définitions différentes. Et que le travail, justement, ça doit être de dire aux gens, dites-nous quelle est votre définition, et essayez de nous le dire de façon précise. Donc pour moi, le capitalisme, il peut y avoir... Alors, bon, celle que je propose me paraît être celle qui colle le plus à l'histoire, à ce qui s'est passé historiquement. Mais elle permet également de discuter de façon rationnelle et de façon productive avec quelqu'un qui a une autre exception.
Parce que, est-ce que c'est un fondement étroitement lié à la croissance? Parce que avant la révolution industrielle, il y avait quand même des gens qui, il y avait des marchands qui accumulaient du capital et qui. C'est pas simple.
Alors,
est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du capitalisme quand on était encore en monarchie?
Non. D'après la définition que je propose, non. La définition, c'est le capitalisme a commencé à fonctionner à partir du moment où il a installé une construction juridique complexe et précise. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé pendant la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire 16e et 17e siècle, où on a la monarchie absolue, à partir des Louis XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, on a des progrès technologiques et qui commencent à permettent de faire certaines choses aux gens qui ont de l'ambition. Bon. Alors on a notamment les Hollandais qui commencent à développer des choses intéressantes avec la marine, etc. Mais on a un système monarchique qui ne permet pas de, de se développer parce qu'il n'y a, a pas justement la personnalité morale, il n'y a pas la création monétaire, il n'y a pas le crédit porteur d'intérêt. Le crédit à intérêt bon, est plus ou moins interdit, etc. etc. Ces gens-là, pour se développer, ils ont tout. Ils ont les innovations technologiques avec le cycle des lumières. Ils ont les idées, mais ils n'ont pas les lois qui leur permettent de se développer. C'est pour ça. Bon, c'est pour ça que la Révolution française, notamment, puisque c'est quand même la Révolution française qui a tout déclenché. La Révolution française qui est au départ des émeutes de la faim, c'est-à-dire la monarchie qui n'en peut plus, ce système qui tourne à vide. La casse des marchands, parce que la casse des marchands a commencé à s'enrichir avec les foires européennes, les bateaux hollandais qui commençaient à ramener aussi des denrées des quatre coins du monde, mais s'enrichir disons à la vitesse petit v. Mais par contre c'est eux qui commençaient à avoir de l'argent, hein. Bon. La Révolution française, si on voit ce qui s'est passé avec la Révolution française, hein, ben, c'est les en fait, c'est les marchands, politiquement c'était la Gironde, hein, les Girondins, qui ont poussé à ce que la monarchie soit mise par terre, et qui ont ensuite utilisé le mouvement populaire pour mettre en place un système législatif qui va leur permettre de mener le grand projet qu'ils ont en tête, c'est-à-dire la prédation illimitée des ressources naturelles, la création monétaire ex nihilo, la personnalité morale, c'est-à-dire la possibilité de créer des sociétés avec des apports financiers extérieurs, etc. etc. Chose qui n'était pas possible avant sous le système monarchique. Donc c'est pour ça que de ce point de vue, avec ces définitions-là, le capitalisme démarre avec la chute de la monarchie et avec l'installation de la démocratie représentative. Donc on a une consubstantialité du capitalisme, de la croissance. Le capitalisme s'est installé juridiquement parce que les marchands voulaient exploser leur développement, qui était limité à une petite progression, alors qu'eux, ils voulaient une progression asymptotique. Avec ces définitions-là, voilà comment on met le capitalisme. Alors, on a d'autres définitions du capitalisme qui font, par exemple celle de Paul Ariès, qui fait démarrer le capitalisme quasiment au néolithique, parce que à partir du moment où l'homme cesse d'être chasseur, pêcheur, cueilleur, et que il se groupe en village, commence à faire de l'agriculture, etc., le mode de faire valoir économique n'est plus uniquement chacun produit la nourriture dont il a besoin, mais c'est qu'il commence à y avoir quelques individus qui vont produire plus de nourriture qu'ils ont besoin pour eux et qui commencent à stocker. Stockage égale capitalisme. À partir du moment où il y a un gars qui commence à cultiver du blé plus qu'il ne lui en faut, et qu'il le stocke, et qu'il ensuite le revend à d'autres quand n'ont pas assez, voilà.
C'est il a un capital.
Voilà, bon. Voilà. Accumulation, accumulateur. À partir du moment où on accumule et qu'on stocke, on démarre déjà le ferment. Alors, le ferment du capitalisme, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Paul Ariès, pour dire que ça démarre comme ça. Et dès qu'on quitte chasseur, pêcheur, cueilleur, bon, ben, il y a une division du travail qui s'installe Et certains produisent plus qu'il ne leur faut pour alimenter ceux qui produisent moins ou qui produisent autre chose. Voilà. Bon. Mais ça reste artisanal. Ça reste artisanal. Il n'y a pas de, y a pas de développement important. Il y a un développement qui est limité. Et qui d'ailleurs, le développement économique, ça on le voit sur les courbes, hein, sur les courbes du PIB, sur les courbes de la prédation des ressources naturelles, sur la courbe de la démographie, qui sont des courbes tout à fait homothétiques, du néolithique à l'année 1800. L'évolution du sinus de ces trois paramètres de moins 10 000 ans à plus 1800, il est de epsilon. Bon, c'est à partir de 1850 que ça se cadre et que ça se met à... Voilà. Bon. Donc, c'est vrai, je pense effectivement, un ferment du capitalisme, une idée du capitalisme qui démarre l'époque néolithique, mais comme un microbe, comme un Covid, qui incube pendant 12 000 ans, bon, et puis tout d'un coup, pour des raisons X, Y, Z et des circonstances qui s'emboîtent bien les unes dans les autres, eh bien, il y a un boost, un développement. Et ça, ce boost, moi, je l'attribue à, une construction juridique qui va permettre de faire des choses uniquement, bon, toutes les outils sont là, les moyens existent, mais il n'y a pas le cadre juridique pour que ça se mette en place.
Et oui, d'autant plus que souvent le roi empruntait au grand bourgeois.
Oui,
tout à fait. Puis pour régler la dette, il coupait la tête du bourgeois, ça arrivait quelquefois.
Oui, mais bon, ça fait pratiquement 100 ans. En 1789, on peut dire que ça faisait déjà au moins un siècle que c'était les marchands qui finançaient l'État, l'État monarchique. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont eu aucune peine à le mettre à bas. Hein.
Ouais.
Ce qu'il a fallu, par contre, c'est liquider les démocrates. Qui ont dit, attendez, non, on a fait la révolution, c'est peut-être pour que le peuple fasse les lois. Alors, bon, je répète hein, simplement la phrase d'Emmanuel-Joseph Sieyès, hein, du 9 septembre 1789 devant l'Assemblée constituante, disant « Mais mes chers amis, nous avons fait la révolution pour que le peuple vote les lois, mais il se trouve que le peuple n'a pas assez d'instructions et n'a pas assez de temps libre. Donc, bon, on va faire autre chose, on va faire le gouvernement représentatif, et puis ce sera une minorité qui gouvernera pour l'ensemble. » Voilà. Alors, pour le gouvernement représentatif, c'était les marchands. Alors, il y avait quand même un soulèvement populaire, une commune, et il y en a qui ont dit, attendez, non, c'est nous qui allons gouverner. Bon, ça a été la lutte entre la Gironde et la Montagne. Le 9 Thermidor a mis fin à tout ça, et c'est la Gironde qui a pris le dessus, et puis voilà, c'est parti, tout est parti de là.
Là, et puis c'est drôle de voir que chacun a sa version hérissante de... Mais c'est pour ça que non, mais le texte est très bien, celui de Demain la décroissance. C'est le moteur qui a fait démarrer.
Alors, bon, là, c'est un débat un peu théorique. Ce qui est intéressant, c'est justement un débat de confronter avec quelqu'un qui vient et qui dit non, moi, ma définition du capitalisme, c'est pas ça, c'est ça. Bon, là, bon, Parce que notre discours, là, il tourne la ville. Hein. Bon.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est de confronter. Alors, avant de confronter, alors, si par exemple, moi, je pense que le capitalisme, c'est cette construction juridique complexe dont je vous parle, que l'on dit non, le capitalisme, c'est ça, avant même de débattre sur. Qui a raison, qui a tort, enfin, quels sont les arguments qui pèsent plus d'un côté que de l'autre, ce qu'il faut, c'est mettre en demeure l'interlocuteur de préciser sa définition et de lui dire attention, ta définition n'est pas précise. Ça, c'est extrêmement facile parce que assez peu, enfin, moi j'ai jamais rencontré de responsables de mouvements qui prennent la peine de bien définir le capitalisme alors qu'ils l'emploient sans arrêt.
Ouais. Oui, c'est une critique péjorative sans.
C'est une symbolique, il le transforme en symbolique.
Ouais. Oui, oui.
Parce que la propriété privée des moyens de production. Attends, alors, un artisan menuisier, un ébéniste qui travaille tout seul, c'est un capitaliste ?
Ben oui.
Il est propriétaire des moyens de production. Boum, t'as tout d'un coup. Voilà.
Ouais. Oui, non, mais c'est ça. C'est, soit on se définit tous plus ou moins capitaliste, à partir du moment où on est indépendant et qu'on travaille en propriété, on est capitaliste. Voilà.
Oui, et puis ça ne tient pas la route. Donc, si, dans les faits, ça ne tient pas la route. Parce que, par exemple, si on prend le NPA, nouveau parti anticapitaliste, voilà un parti qui a dans son intitulé le fait qu'il est anticapitaliste. Il ne veut absolument pas nationaliser les ébénistes. Si on lit en détail ce que j'ai fait, le programme du NPA, il nationalise que le CAC 40. Même les petites PME, pour eux, c'est pas capitaliste. Donc, alors à ce moment, ils vont dire, mais c'est le grand capitaliste, d'accord. Donc, déjà, la plupart du temps, lorsque celui qui arrive avec sa définition toute faite, le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production, et que tu lui dis oui, mais alors le petit artisan est capitaliste, non, mais je veux parler du grand capitalisme. Bon, donc le capitalisme, ça n'existe pas. C'est que le grand capitalisme. Alors, à partir de quand tu es grand capitaliste, s'il y a un grand capitaliste qui a un petit capitalisme, il ne peut pas y avoir pas de capitalisme du tout et un grand capitaliste. Voilà. Bon, donc très rapidement, l'interlocuteur se retrouve confronté à des contradictions inextricables. Hein, et c'est assez intéressant.
Non, mais ça se tient pas. Après, ça peut pas être la richesse de référence, parce que un artisan peut parfaitement être plus riche qu'un banquier. Ça pourrait arriver. Ouais, non, c'est la mécanique qui est importante à démontrer, à théoriser.
Après, il y a la définition du capitalisme qui est citée là dans les propositions de définition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un travaille pour gagner toujours plus d'argent, alors bon, ça on ne sait pas s'il est salarié ou à son compte, c'est pas dit, mais l'idée c'est celui qui accumule de l'argent, c'est un capitaliste. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est une définition. Une définition qui, pour le coup, je trouve que c'est celle qui est le plus précise.
Ouais.
Qui est la plus précise.
Ouais, le paysan qui garde une récolte d'avance en cas où il a une mauvaise récolte l'année suivante, c'est un capitaliste. Puisqu'il met de côté, une partie de sa récolte.
Je pense pas dans l'esprit des gens qui partent sur la base de cette définition. Non, parce que c'est plutôt de l'épargne, ça, de l'épargne de précaution.
Ouais.
Donc, le capitaliste accumulateur, c'est celui qui va dont l'objectif c'est le toujours plus.
Ouais, quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, toujours plus. C'est-à-dire on s'arrête jamais. Il n'y a pas de il y a pas de niveau de satisfaction ou de plafond de quelque nature que ce soit.
Bernard Arnault, qui avoue être une des plus grosses fortunes mondiales, continue à accumuler quoi qu'il arrive.
Oui.
Oui, oui.
Mais si on prend la définition que je propose, on s'aperçoit que celle dont on parle là, qui est une définition intéressante, elle n'est qu'une externalité de la définition générique, parce que pour être pour réussir cette opération d'accumulation continue, hein, bon, il faut forcément être dans un système juridique qui permet de le faire.
Bien sûr. Et ne serait-ce que l'usure. C'est-à-dire que même sans les placements financiers, l'actionnariat,
oui,
sans s'occuper directement de son capital, on délègue la gestion, mais pour accumuler encore plus.
Oui, oui. Ah ben oui, dans les... Disons, les modes et les sources d'accumulation, de création de richesses... Il n'y a pas que la production. Maintenant, tout le système boursier permet de faire des profits uniquement argent contre argent.
Oui, de toute façon, c'est devenu une industrie, hein, tout ce système. Mm. Ok, Gilles nous a quittés dans les vapeurs de Noirmoutier.
Non, j'écoute avec intérêt. Donc, pas du tout.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, Gilles?
Isme, vous avez bien résumé le début. Hein. C'est-à-dire que moi, je prends n'importe quel mot, je rajoute isme derrière. Ça veut dire quoi, isme derrière? C'est-à-dire théorie de...
Oui, oui.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'il y a que... Ce capitalisme, c'est un oxymore dès le départ, parce que voilà, c'est pas une doctrine, il n'y a pas de bouquin de référence. Et en plus, dans la tête des gens, l'inverse du capitalisme, c'est pas le travailisme, par exemple, c'est le communisme. Donc, quel rapport entre la commune et le capital, voilà. Donc, et puis dans la tête des gens, c'est-à-dire les riches, les pauvres. Alors là, tu vois. Donc, dans le capitalisme, voilà, la loterie des riches, alors qu'il n'y a pas de loterie, mais c'est un peu ça. Tout le monde a la chance d'être riche. Dans le communisme, tout le monde est sûr. Donc voilà, les gens commençaient les mots en isme. Donc. Mais, par contre, du coup, oui, c'est chargé de trucs. Donc toute la gauchiasse feignasse répète à tout âme éternam sans comprendre. Donc moi, j'adore commencer par dire « Oui, je suis capitaliste, et puis allez vous faire foutre. » Et après, comme ça permet de dire qu'est-ce que le capital et tout. Et si moi, ma définition de capital, c'est améliorer le capital, même s'il n'y a pas... Qu'il y ait du travail ou pas, on s'en fout. Que tu travailles ou pas, on s'en fout. Que tu sois riche ou pas, on s'en fout. Là, j'ai perdu le côté des gens, on est pas tes câbles. Mais est-ce que dans ta vie, tu as amélioré ou pas le capital? Voilà, et après, la définition, c'est le capital, c'est-à-dire c'est tes frontières. C'est-à-dire tu as amélioré quoi? La qualité de ton air, la forêt, la qualité de ton champ, ou la qualité de ta maison, ou ta qualité de vie, ou la qualité de tes relations, ou n'importe quoi. Donc pas la quantité de tes voitures. Donc voilà, ou les codes. Après les codes, moi ça me dérange pas d'avoir plein de bracelets en or. Hein. Parce que voilà, moi par l'or c'est un peu de mercure et tout. Mais... On peut aller, le signe de richesse étant différent dans différents pays, on peut mettre dans le capital tout ce qu'on veut. Donc tu peux mettre des signes de pauvreté dans le capital, dire que tu es capitaliste en augmentant le capital, comment tu augmentes les chaînes de pauvreté, etc. Donc tout ça, ouais, c'est encore mettre des bonnes frontières, d'où vient ce mot, et qu'est-ce qu'on peut ranger dans le capital, est-ce qu'on peut tout ranger, même des choses immatérielles ou pas. Donc voilà. Et après, justement, le isme, il veut dire quoi? Est-ce que la racine, vous l'avez compris, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une théorie ou... c'est quoi ce isme mis derrière capital, quoi?
Pour le système, ouais. Isme, c'est pour le système de fonctionnement.
Oui, isme, c'est système. On passe d'une idée à un système. Capital. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Gilles, parce que le capital, on peut lui mettre de la vertu dans le capital. Hein. J'améliore mon capital, mon capital santé, etc. Bon, donc, capitalisme, alors c'est un système, on met en place un système. Alors tout dépend la définition qu'on donne du capital, et ça va donner ensuite une définition différente du capitalisme. Donc capitalisme, effectivement, comme je disais au début, il n'y a pas de définition déposée, donc chacun peut donner la sienne, surtout si au départ on a déjà une définition différente du capital, du mot capital. Donc, fatalement, par extension, le substantif capitalisme va avoir une signification différente. Mais dans le cadre politique, dans le cadre de l'action politique, parce que là, on n'est pas dans le cadre de la philosophie, dans le cadre de l'action politique, et c'est le but de l'utilité de ce glossaire, c'est que lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on argumente, lorsqu'on contredit les autres, qu'on est contredit, on est contredit sur des mots. Hein. Voilà, vous avez dit ça, c'est pas bien, ou ça tient pas debout, etc. Bon. Donc, le capitalisme étant charnière de beaucoup de choses dans le débat politique, il est important de dire, ben oui, nous, quand on dit capitalisme, nous, on pense ça. Après, on peut penser des tas de choses, etc. Mais ça permet que ce ne soit pas un dialogue de sourds, enfin, ou disons que ce ne soit pas un dialogue où tout le monde patauge dans le yaourt. Voilà exactement ce qu'on entend quand on dit capitalisme. Voilà. C'est en fait ce glossaire, c'est un outil définir, parce qu'on peut le définir effectivement d'un d'autres façons, mais il faut que ça puisse s'emboîter, que ce mot puisse s'emboîter dans les autres raisonnements qu'on fait sur les autres piliers de la...
Oui, c'est vrai que tu as fait une définition juridique, vu que le programme est assez juridique et remet à plat la juridiction et la Constitution, donc oui, c'est normal, c'est logique.
Surtout s'il s'agit, au bout du compte, de dire il y a une corrélation entre capitalisme, entre croissance, on part de la croissance. Croissance, on critique la croissance, pourquoi la croissance capitaliste, capitalisme, démocratie représentative. Voilà. Bon. Ouais. Donc il s'agit d'articuler ça avec une logique qui est une logique politique et, voilà, et qui est sous-tendue par quelque chose qu'on puisse écrire en tant que corpus juridique.
Oui, mais quand tu dis que la croissance n'est pas possible, ad vitam aeternam, parce que les repères de croissance sont justement faits par des capitalistes qui détruisent leur propre capital. Mais donc si on part du principe que le capital se compte autrement, que le capital est autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, être capitaliste, ça pourrait oui. d'un coup faire attention au capital, oui. donc ne
oui.
pas être croissantiste.
Oui, oui, voilà, oui, oui.
Comme
oui.
Ça, quoi.
Oui, on peut changer. Oui, oui, oui. La décroissance peut changer le capitalisme. Oui, oui. Ah, oui. Ça, c'est intéressant. Ça. J'ai pensé, mais c'est un truc à creuser. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la croissance telle qu'on l'a qu'on la montre, qu'on la définit, qu'on l'analyse, hein, le mode de faire valoir, c'est le capitalisme qui en est l'activateur et qui en est le réacteur. Voilà. Bon. Ensuite, dans la décroissance inéluctable, il y a effectivement, c'est très intéressant, il y a effectivement un autre capitalisme vertueux qui d'ailleurs, étant donné que, bon, il y a une consensualité entre le capitalisme qui crée la croissance mortifère, ensuite la décroissance qui s'impose, bon, il y a, elle peut générer, pourquoi pas, peut générer un capitalisme vertueux. C'est une idée, intéressante.
Du bonheur, donc on ouais. n'aime pas ce pays, on n'aime pas la consommation, on veut la décroissance, etc. On n'a pas pris ce chemin-là, qui est aussi bien, hein, que les autres ont pris, il n'y a pas de souci. Mais comme on a pris le chemin un peu physicaliste, qui ne dépend pas de ce que chacun aime ou n'aime pas, bah, du coup, on peut montrer aussi par ce biais-là que les capitalistes, qui se disent capitalistes en tout cas, et qui ont mis ce système en branle, ne font pas attention au capital. Sinon, ils seraient pas de façon physique.
Et dans une comptabilité de stock, tu fais attention à ton capital.
Bien sûr, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, c'est le. Alors, c'est justement le capitaliste vertueux qui n'existe pas, ou tout au moins qui est bridé, qui est opprimé, oppressé. Le capitaliste vertueux, c'est lui qui va être du coup l'activateur de la décroissance. Ça, c'est très intéressant. Mais il est 19h31, et donc c'est super. Hein. Voilà. Bon. Ben, les amis, à bientôt.
Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée. Bye bye. Salut à tous. Ciao, ciao.
Au revoir.